Autre radio, autre culture, bonjour, émission également diffusée sur audiopeople.fr. Aujourd'hui, nous recevons Wally Carveno, qui est pianiste, compositrice et aussi comédienne. Bonjour Wally.
Est-ce que je peux vous interrompre tout de suite ?
Oui.
Et montrer mon sale caractère ?
Oui.
Mon nom ne se prononce pas Wally. Vous ne dites pas un wagon, vous ne dites pas wagram. Bien que ce soit un W, on dit Wally.
Bien.
Voilà.
Wally.
Alors, vous m'appelez Wally.
Bonjour, Wally.
Bonjour, madame.
Je suis très contente de vous avoir parmi nous.
Moi aussi.
Alors, on va parler de vos différents métiers de compositrice, pianiste, comédienne. Comment vous en êtes arrivée là, puisque vous avez été d'abord pianiste.
Oui.
Très, très jeune.
Oui, mes parents ne voulaient pas que je sois une enfant prodige, alors que j'aurais pu. Je peux vous dire que je suis très douée, parce que je ne me vante pas en disant ça. C'est un don, comme on dit, un don de Dieu, si vous voulez. Alors, je suis donc très, très, très douée. Et j'aurais pu jouer à l'âge de 5-6 ans. Je jouais du piano, mais pas en public. J'ai fait mon premier petit concert à l'âge de 11 ans. Et mes parents étaient contre, parce qu'ils voulaient que j'aie une enfance, que j'aie une enfance heureuse, que je joue à la poupée, que j'ai des amis. Eh bien, mon ami, c'était le piano, et je ne jouais que du piano. Alors, j'aurais pu faire des concerts bien avant. À l'âge de 13 ans, de 13 ans et demi, j'ai joué avec orchestre en public le concerto de Schumann. Donc, je commençais vraiment une carrière de pianiste très brillante. C'était en Suisse, à Berne. Et malheureusement, mon père est mort. Et j'adorais mon père. Et peu de temps après sa mort, j'ai eu des douleurs absolument épouvantables dans les deux bras. Et ça se passait en 1928, puisque maintenant j'ai 96 ans, donc c'était pas hier. En 28, on ne connaissait pas les douleurs psychosomatiques. Et c'était certainement des douleurs psychosomatiques dues à la mort de mon père, que j'ai eu dans les deux bras. Je ne pouvais plus découper la viande dans mon assiette, je ne pouvais plus mettre ma main dans la manchure de mon manteau. Enfin, j'avais très très mal au bras et évidemment, il n'était pas question de jouer du piano. Alors, ma mère m'a fait suivre des cours de littérature. Tout m'intéresse, mais je n'étais pas passionnée. Et un jour, j'ai eu l'idée de demander à maman l'autorisation de suivre des cours d'art dramatique. Elle a dit « Oui, ma petite fille, mais à condition que tu ne fasses pas de théâtre. » J'ai dit « Non, 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 je ne ferai pas de théâtre. » Et un an plus tard, j'étais la plus jeune comédienne du Staatstheater de Berlin. Il faut vous dire que tout ça, ça se passait à Berne, en Suisse. Mais je suis née à Berlin, en Allemagne, et mon père était professeur d'université, et il a été appelé à l'université de Berne, tout de suite après la guerre, ce qui fait que j'ai vécu toute ma jeunesse à Berne. Mais Berne est bilingue, et moi je suis bilingue, puisque ma mère était de langue française, elle était belge, de Bruxelles, et je parle toujours l'allemand comme le français, ou le français comme l'allemand, comme vous voudrez. Et à Berne, j'ai suivi les cours d'art dramatique en allemand. Ce qui fait que j'ai été engagée au Staatstheater de Berlin. J'ai auditionné quand j'avais à peu près 16 ans, 16 ans et demi. En tout cas, j'ai fêté mes 17 ans au Staatstheater de Berlin. Je suis donc devenue comédienne. Mais à l'époque, je ne jouais pas de grands rôles. Et l'année suivante, j'ai été engagée à Berne comme jeune première. J'avais 18 ans.
Quelle carrière très tôt
J'ai commencé très tôt, mais j'ai terminé très tôt aussi, parce que je n'ai pas fait de carrière, finalement. J'étais jeune première, et à ce moment-là, à Berne, j'ai rencontré de nouveau mon professeur de piano au conservatoire, qui était Franz Josef Hirt, très connu à l'époque, un élève de Cortot d'ailleurs, et il m'a dit « Mais quel dommage que tu n'aies pas fait ton diplôme, le diplôme de pianiste au conservatoire ». Ah ben j'ai dit oui, ben je ne l'ai pas fait. Mais tu devrais le faire. J'ai dit, mais je ne joue plus de piano. Mais si, je te donnerai des leçons. Je lui ai répondu, mais je n'ai pas de quoi me payer des leçons. Je te prends gratuitement. Et ça, ma mère n'a pas marché parce que elle savait très bien que j'aurais été obligée de payer d'une autre façon. Mais on m'a accepté au conservatoire à un tarif réduit puisque j'avais été élève et j'ai fait mon diplôme, effectivement, en 3 mois. J'ai refait du piano, d'abord 5 minutes par jour, 10 minutes par jour. Je n'avais plus mal au bras et je suis donc diplômée du conservatoire de Berne. Vous me direz que ça ne sert pas à grand-chose. Ça m'a quand même servi. Parce que des années plus tard, ici à Paris, quand j'ai divorcé, eh bien, j'étais bien contente d'être diplômée parce que ça m'a permis d'être professeure dans plusieurs conservatoires municipaux où il fallait un diplôme. Et on a fait l'équivalence des grades. Le diplôme de Berne était valable à Paris.
Donc vous êtes devenue professeure de piano dans les conservatoires parisiens.
Moi, j'ai toujours donné des leçons. Oui. Avec ou sans diplôme, j'ai toujours donné. Bah, vous savez, le diplôme, ça ne sert à rien. Ça sert à être engagé, mais ça ne vous apprend pas du tout à donner des leçons. Ou vous êtes pédagogue dans l'âme ou vous ne l'êtes pas. Et déjà à l'âge de 13 ans, j'ai donné des leçons de piano. Et j'aime donner des leçons de piano. Si vous n'aimez pas donner des leçons, vous donnez de mauvaises leçons. Et je crois pouvoir dire que je donne de bonnes leçons. Et j'en donne toujours, quelques-unes. Mais j'ai eu énormément d'élèves. Et après mon divorce, justement, j'ai gagné ma vie comme professeur de piano. Et je n'avais même plus le temps de jouer pour moi. J'ai fait très peu de concerts à l'époque parce que je donnais des leçons du matin au soir. J'avais des journées de 11 heures de leçons. C'est énorme.
Oui,
c'est énorme. Pas de déjeuner.
La retraite à 60 ans, vous ne connaissez pas?
Ah ben bien sûr, à 65 ans. J'étais professeur à l'époque, j'étais professeur au conservatoire de Longjumeau, comme le Postillon, et de Dourdan, qui est un peu plus loin. Dourdan, c'est quand même à 50 km de Paris. J'étais aussi au conservatoire du 9e arrondissement, avec Alfred Lovengut, et j'étais professeur au conservatoire indépendant. J'avais 4 conservatoires. Alors, c'est vous dire le nombre d'élèves. D'ailleurs, quand je donnais un récital, la salle était pleine, parce qu'il y avait mes élèves et leurs parents. Or, chaque enfant a 2 parents. Et un grand-père, une grand-mère, ou parfois aussi un oncle et une tante. Alors, vous voyez le nombre de personnes qui venaient à mon concert. Il y a, je crois qu'il y a 30 ans, à peu près. Ça devait être en 83. J'ai joué au Festival de Sceaux. Et l'orangerie a 800 places. Et à moi, toute seule, j'ai rempli l'orangerie. Il y a 800 personnes qui sont venues pour moi, toute seule. Je n'avais pas de partenaire qui aurait pu amener du monde. C'était moi uniquement. Maintenant, je ne remplis plus une salle de 800 places. Parce que je viens de vous dire mon âge. Et à mon âge, les personnes que je connaissais, enfin les amis de ma génération, ils sont au cimetière. Je devrais y être moi-même, mais je n'y suis pas encore.
Le plus tard possible, quand même.
Si je peux continuer à jouer du piano, oui. Mais sans faire de musique, qu'est-ce que je ferais toute la journée? Assise dans un fauteuil à attendre la mort? Mais elle viendra bien, un de ces jours. Mais je ne veux pas l'attendre.
Quels sont vos compositeurs de prédilection?
Oh, ça c'est une question terrible. Si je vous disais tous, non, tous, c'est pas vrai, tous. Mais je n'aime pas tout de tout le monde. Beethoven, par exemple. Oh, tout le monde aime Beethoven, je ne pourrais pas vous dire que je ne l'aime pas. Mais ce n'est pas mon compositeur de prédilection. Il y a des choses de Beethoven que je trouve très belles. Je n'aime pas tout. Je n'aime surtout pas ses fins de mouvement, que ce soit une symphonie, que ce soit une sonate. Il accentue qu'on est vraiment dans cette tonalité. Dans la tonalité de la tonique. Tam, 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 pam, pam, pam. Fini. Ah non, c'est pas encore fini. Tam, 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 tam. Alors, enfin, c'est fini. C'est un petit peu une caricature. Mais ce n'est pas totalement faux, ce que je vous dis là. Alors, comme pianiste, évidemment, j'aime Chopin. Peut-être que comme prédilection, c'est Bach. Ah ben, je joue du Bach tous les matins. Et ce n'est pas comme pour se brosser les dents tous les matins, c'est pas la même chose. C'est parce que je veux en jouer, parce que ça me fait du bien de jouer du Bach. Et chez Bach, vous avez tout. Bach est l'époque baroque, mais c'est un grand classique, et c'est même un romantique. Vous avez du romantisme chez Bach. Il y a tout. C'est peut-être le plus grand génie de la musique. Mais il y en a beaucoup d'autres.
Il y a beaucoup, par exemple, de jazzmen, pianistes en jazz, qui utilisent...
Vous parlez du jazz ?
Qui utilisent du Bach, justement.
Oui, mais Louvier, ou je sais pas, je crois qu'il s'appelle Louvier, a joué du Bach,
oui,
en jazz.
Tout à fait. Exactement.
Mais alors, ne venez pas me parler de ça.
Non, je ne parlais pas de ça. Je disais que beaucoup de pianistes...
Mais je n'ai pas, excusez-moi de vous interrompre, mais ce n'est pas que je n'aime pas le jazz. Mais qu'on fasse du jazz, c'est très bien. Mais qu'on dénature Bach, c'est pas très bien.
C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que tous ces gens-là ont eu des bases classiques en piano, et très souvent, les bases classiques qui ressortent dans leur jazz, c'est par exemple des accords de Bach.
Non, non, non. Dans le jazz, il y a beaucoup d'accords de septième. Enfin, septième, vous savez qu'il y a des intervalles, on compte les notes. Deux notes, do, ré, par exemple, c'est une seconde. Do, ré, mi. Do, mi, c'est une tierce. Et la septième, c'est do, si. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et il y a donc beaucoup d'accords de septième, par exemple, chez Ravel. Mais beaucoup moins chez Bach. Il y a des septièmes diminuées chez Mozart. Vous ne pouvez pas comparer. Évidemment qu'il y a des accords dans le jazz, mais ce n'est pas du tout la même chose. Vous ne pouvez pas comparer le jazz et le classique. Déjà par les accords, mais surtout par le rythme, évidemment. Mais j'aime bien le jazz, mais je n'en joue pas. Je n'en fais pas. J'ai composé des chansons, mais ça, ce n'est pas du jazz.
Justement, quand arrive cette carrière de compositrice ? À quel moment il y a eu le déclic ?
Et j'ai commencé le piano à 4 ans, je crois, mais je jouotais, je tapotais un petit peu de piano à l'âge de 3 ans, comme tous les bébés. Mais à l'âge de 4 ans, je jouais. Et je sais qu'à 5 ans, j'improvisais. Donc, je jouais ce qui me passait par la tête. Et ma mère trouvait ça bien. Et comme je ne savais pas écrire, elle a écrit sous ma dictée. Elle a donc inscrit des petits morceaux que je jouais et que j'improvisais, que je composais, en somme, à l'âge de 5 ans, 5 ans et demi, 6 ans. Et j'ai un petit cahier chez moi que ma mère a écrit, donc c'est son écriture, mais c'est moi qui ai composé. Et il y a toutes les dates, chaque date d'un petit morceau que je composais. Mais ici, il n'y a pas de piano, je ne peux donc pas vous le jouer. Mais ce sont des petits morceaux tout à fait valable, mais inspiré évidemment de ce que je jouais à l'époque, c'est-à-dire les petites Cherny, les petits Diabelli, les petits Clementi, des choses pour des petites mains. Et je composais comme ça absolument d'une façon tonale. Et pour l'anniversaire de mon père, ma mère lui a donné ce petit cahier avec, bon, je ne peux pas vous dire maintenant, vous me prenez au dépourvu, mais il y a bien une trentaine de petits morceaux que j'avais composés. Et quand je jouais un morceau et que ma mère le prenait en dictée, il faut vous dire que ma mère était violoniste, mais naturellement elle jouait aussi du piano, c'était une très bonne musicienne. Elle prenait donc mes morceaux en dictée et puis elle se mettait au piano pour me jouer ce qu'elle avait inscrit. S'il y avait une nuance ou un phrasé qui n'y était pas, je l'engueulais. Je prenais la musique et je la jetais dans le salon. Je dis non, c'est pas ça, c'est pas ça. Enfin, j'avais un petit caractère extrêmement doux et gentil, mais ma mère avait l'intelligence de ne pas tenir compte de ça. Parce que, justement, j'étais douée et elle ne voyait que ça. Et mon père, je vous ai dit qu'il était professeur d'université. Quand il rentrait, il était aussi au laboratoire, il était bactériologiste. Il avait été élève de Pasteur. Et quand il rentrait le soir à la maison, je l'accueillais. Je lui apportais sa veste d'intérieur et ses pantoufles. Et il s'asseyait dans un fauteuil du salon avec son journal et sa cigarette. Il fumait sa cigarette, mais il ne lisait pas son journal parce qu'il m'écoutait. Il m'écoutait jouer et il ne chantait pas, mais il me sifflait un thème, un thème de musique classique. Quand j'avais 7-8 ans, je ne connaissais pas tout, évidemment. Il me sifflait donc un thème, et je rejouais ce thème au piano, et j'improvisais sur ce thème, je faisais des variations, je m'inspirais de ce thème, et je jouais. Et mon père m'écoutait. Et j'étais heureuse que mon père m'écoute, et évidemment... Il me disait que c'était bien ce que je faisais. Alors, j'étais évidemment très, très heureuse. Jusqu'au moment où ma mère venait dire « Maintenant, il faut aller à table. Le dîner est servi. »
Une admiration des parents.
Mon père était très heureux de ce que je faisais. Il me critiquait beaucoup. Mais c'était des critiques constructives. Il n'était pas aveugle, il n'était pas sourd. Il me disait « Ça n'est pas bien, tu devrais faire comme ceci, comme cela. » C'était constructif. Et je l'écoutais. Mais à l'époque, on n'avait pas de quoi enregistrer. Et toutes ces improvisations que j'ai faites, qui étaient évidemment géniales, vous n'en doutez pas, eh bien, tout ça a été perdu. Mon père l'a écouté, et puis c'était fini. Une improvisation, on ne peut pas le reprendre. On n'apprend pas ça par cœur. Ça découle, ça coule de source. Voilà, on ne peut pas rejouer ce qu'on a improvisé. Alors, il paraît que c'était très bien, mais moi, aujourd'hui, je ne me rends absolument pas compte de ce que c'était. Je ne sais pas.
Alors, j'ai retrouvé des affiches.
Ah ?
Des affiches de concerts sur Paris dans les années 50-60, où l'on mentionne donc le nom des cantatrices, le nom des musiciens, et l'on indique les noms des compositeurs des œuvres qui vont être jouées. Et vous êtes donc nommé Valie Carvenot et Olivier Messiaen.
Alors, j'ai connu Messiaen, mais je ne vaux pas Messiaen, évidemment. Mais je ne sais plus comment je l'ai rencontré, mais je me souviens très bien qu'il m'a donné sa carte et qu'il m'a dit « Je reçois le samedi chez moi, je serais très heureux que vous veniez. » Et sur sa carte, il y avait son adresse, c'était 26 rue des Plantes. Et je suis rentrée à la maison chez maman et je lui ai dit « Voilà, Olivier Messiaen m'invite, j'irai chez lui samedi. » Et maman, vous ne devinerez jamais ce qu'elle m'a dit, au lieu d'être fière de sa fille qui est invitée par Messiaen, elle m'a dit « Tu n'iras pas, parce qu'il veut coucher avec toi. » Bon, ce n'était pas vrai du tout.
Parce que d'abord... la maman protégeait sa fille.
Ah oui. Et comment? J'aurais peut-être fait carrière si j'avais beaucoup couché. Couché avec les gens utiles. Mais moi, j'ai couché, bien sûr. Mais pas avec les gens qui pouvaient me propulser. Je n'ai jamais couché par intérêt. J'aurais dû faire le trottoir. J'avais ce qu'il fallait pour faire le trottoir, mais je ne l'ai jamais fait. Et j'ai eu tort, parce qu'on n'entame pas ce métier. On n'entame pas un métier d'artiste si on est une petite jeune fille très très sérieuse et qu'on reste une jeune fille vierge. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut dans le métier. Je ne vous dis pas que toutes les femmes sont des putains, non. Excusez-moi, mais c'est tout de même ce mot-là qui est juste. Non, mais la plupart...
Elles ne sont pas victimes, plutôt.
Pardon ?
Elles ne sont pas victimes de ce processus où on est obligé de s'aider pour y arriver.
Plus ou moins. Elles ne sont pas aussi sérieuses que je ne l'ai été. Je dis sérieuse pour ne pas employer d'autres mots. Je suis déjà assez libre comme ça.
Jean-Paul qui est avec nous, Jean-Paul Victor, des questions.
Bonjour Marion.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, j'ai connu Valie il y a une dizaine d'années, à l'occasion de ses 85 ans, donc concert qu'elle donnait à l'auditorium de la SACEM. Donc Valie organisait un...
Et il n'y avait que de mes œuvres.
Il y avait tes œuvres, effectivement. Donc il y avait un ballet, me semble-t-il, si je me souviens bien.
Ah ben non, pas ce jour-là.
Il y avait des danseurs.
Il y avait des danseurs ce jour-là ?
Il y avait des danseurs.
Mais je veux juste un couple qui a esquissé quelque chose. Mais parce que j'ai écrit un ballet dont j'ai fait le livret et la musique, mais il a été donné beaucoup plus tard.
Absolument. Et il y avait également tes œuvres, donc d'autres œuvres que tu interprétais avec des chanteurs.
Il y avait mon trio.
Il y avait des chœurs.
Piano, violon, violoncelle.
Absolument. Et des chœurs également.
Il y avait un chœur, oui.
Et donc c'était à l'occasion de ton anniversaire.
Mais je ne sais plus quel était cet anniversaire? Si c'était 80
85.
Ou 85
85.
Moi, je ne sais, je me rappelle plus.
Oui, ça fait une dizaine d'années.
Et tu as fait la prise de son, tu as enregistré.
Donc, un film avait été tourné à l'époque avec un réalisateur allemand.
On a effectivement tourné un film sur moi.
Oui.
Et ce réalisateur, ce producteur avait un nom allemand, mais il n'était pas allemand, il s'appelait Waxman. Ben, je crois qu'il vit toujours.
Est-ce que vous composez toujours ?
Très, très peu. Ça m'arrive encore. J'accompagne une cantatrice dans quelques mois. Son programme est fait, ça s'appelle Mosaïque. Elle chante un groupe de berceuses, un groupe de chants d'amour, un groupe de révolutionnaires, plusieurs groupes. Et pour le groupe des berceuses, j'ai pris une berceuse juive qui est très très jolie et je l'ai arrangée pour piano. J'ai donc fait une berceuse pour piano. Je crois que c'est réussi. Alors, je jouerai cette berceuse pour introduire le groupe de berceuses qu'elle va chanter. Mais par exemple, pour l'amour, je jouerai le chant d'amour de Liszt. Alors, vous voyez, je me mets sur le même plan. Il ne faut pas toujours me prendre au sérieux. Hein.
Actuellement, quand vous jouez du piano et quand vous donnez des concerts, quels sont les compositeurs ? Je vous ai demandé tout à l'heure vos compositeurs de prédilection, mais actuellement, quels sont-ils ? Est-ce que,
parce que
j'imagine que ça doit évoluer avec le temps ?
J'ai joué il y a 3 jours ou 4 jours, j'ai fait un récital. J'ai commencé par une fantaisie de Mozart. J'ai joué la sonate en la bémol de Weber. Et j'ai mis 3 mouvements au programme, alors qu'il y en a 4, mais j'ai trouvé que 3, c'était déjà beaucoup parce que les 3 mouvements durent 26 minutes. J'ai donc coupé un mouvement parce qu'autrement, c'était trop long. Et Weber est, je crois, le premier compositeur romantique. Après, j'ai joué du Schumann. J'ai enchaîné avec une composition d'une certaine Vali Carveno qui n'a pas vécu au siècle de Schumann, mais ça s'appelle les variations romantiques. Au fond, je suis restée une grande romantique. J'ai donc mis mes variations au programme parce que l'organisateur du concert m'a demandé de jouer quelque chose de moi. Mais j'avais composé ces variations en 1936. Donc ça fait un certain nombre d'années. J'étais obligée de les réapprendre totalement. Et puis j'ai joué pour finir du Chopin. Parce qu'on ne fait pas de récital sans jouer du Chopin, puisque ça plaît aux gens. Moi, ça me plaît aussi. Je ne jouerais pas si ça ne me plaisait pas. Mais enfin, c'est tout de même ce qu'il faut.
Quels sont les grands compositeurs que tu as rencontrés ?
J'ai rencontré, mais ça n'a aucune valeur. J'ai rencontré Ravel, j'ai dit bonjour maître. J'ai rencontré Bartok. Celui que j'ai un petit peu connu quand même, c'est Honegger. Oh ben je ne vous parle pas de Florent Schmitt parce qu'il est complètement oublié. C'était un grand prix de Rome et j'allais chez Florent Schmitt toutes les semaines. Mais il n'est plus considéré comme grand compositeur. Je ne sais même pas si Honegger est encore très connu. Enfin, c'était quand même quelqu'un d'extraordinaire. Et Bartok, oui, Bartok, on le connaît encore toujours. Mais je lui ai serré la main, c'est tout. Ce n'était pas intéressant. Et Ravel non plus, c'était un petit bonhomme. Bon, j'ai dit bonjour maître. Et ça m'a mené à quoi ? Je n'ai pas eu de conversation avec Ravel, ni avec Bartok. Avec Honegger, je suis allée chez lui, j'ai passé 1 heure chez lui, parce que c'était un ami de mon professeur, parce que vous savez que Honegger était suisse. Et mon professeur était suisse aussi, bien sûr, puisque j'ai vécu à Berne. Je suis allée voir Honegger de la part de mon professeur. Et Honegger écrivait beaucoup de musique de films. Mais il ne m'a pas engagée pour jouer dans ces musiques de films qu'il faisait. Bon, je me souviens qu'il avait une collection de pipes. Les murs, les 4 murs de son salon, il y avait une espèce de toile qui était cloué contre le mur, et cette toile contenait des pipes. Oh, je sais pas, il avait 80 pipes. Et donc, il fumait la pipe. Ah, mais qu'est-ce que nous avons ? Nous n'avons pas parlé vraiment musique. Les compositeurs, ça ne les intéresse pas de parler avec une petite jeune fille que j'étais à l'époque.
Alors pourquoi le voir ?
Pardon ?
Pourquoi le voir ? Parce que justement, on pourrait penser que vous avez essentiellement des discussions sur les modes de travail du piano ou sur les...
ne les intéresse pas. Ils font de la musique toute la journée, alors quand il y a une petite jeune fille qui vient les voir, ils pensent à autre chose.
Peut-être que la maman avait raison, finalement.
Mais oui, ma mère avait raison. Mais justement, je parlais de n'importe quoi, mais on ne faisait rien. Ils comprenaient très vite que ce soit en guerre, que ce soit d'autres, ils comprenaient très vite qu'il n'y avait rien à faire. J'ai fait beaucoup de figurations de cinéma, parce qu'il fallait tout de même que je gagne ma vie. Et ce n'est pas avec le piano que je gagnais ma vie. Alors, même pour faire de la figuration, c'est pas mal de coucher. Mais quand j'allais dans une maison de production, que je voyais le metteur en scène ou bien l'assistant du metteur en scène, il me demandait de voir mes jambes. Alors je soulevais ma jupe jusqu'au-dessus du genou, mais c'est tout.
Ça a l'air difficile quand même, je veux dire, pour une femme de réussir.
C'est
sans
difficile
céder.
Pour toutes les femmes, mais elles ne le disent pas toutes. Moi, je le dis. Mais les femmes qui ont réussi, elles ne disent rien. On ne sait pas pourquoi elles ont réussi. Parce qu'elles avaient du talent, mais il faut autre chose que du talent. J'ai fait, j'ai joué dans un film qui s'appelait Le Mioche. Et c'était en 1936. C'était le premier film de Léonide Mogui. C'était un pensionnat de jeunes filles. Il y avait une vingtaine de jeunes filles. Et il y avait trois entre ces jeunes filles qui avaient un rôle, qui avaient donc des choses à dire, qui n'étaient pas des figurantes. Et moi, j'étais la principale des trois. Et comme j'étais assez fière d'allure, je m'appelais dans ce film Geneviève d'Ambreville, D'. Et Léonide Mogui m'a dit « Oh, c'est un rôle difficile. Il faudrait que vous le travailliez avec quelqu'un. » Alors je lui ai dit « Mais je pourrais le travailler avec René Simon. » Vous savez que René Simon, maintenant, il est peut-être oublié, mais c'était le professeur de tous les acteurs il y a 60 ans. Et moi, j'ai été un petit peu chez René Simon. Je lui ai dit « Je pourrais travailler avec René Simon. » Et Léonide Mogui m'a dit « Oh, mais je préférerais le travailler avec vous. » Alors, vous comprenez ce que ça voulait dire. Je lui ai dit, je n'ai pas le temps de travailler le soir parce que je joue dans Margot. Et c'était vrai. Je jouais avec Yvonne Printemps et Pierre Frenet au Théâtre Marigny, dans une pièce d'Édouard Bourdet, qui s'appelait Margot. Je n'ai donc pas travaillé, et je vous dis travailler entre guillemets, avec Léonide Mogui. Alors, j'avais donc mon rôle, j'avais appris mon texte. Chaque soir, il y avait l'une des figurantes qui rentrait avec Léonide Mogui. Et le lendemain matin, elle avait une phrase de mon rôle. Et le lendemain, une autre figurante avait une phrase de mon rôle. Et mon rôle a diminué comme ça de jour en jour, parce qu'il était pris par toutes les petites amies, amies entre guillemets aussi, qui rentrait le soir avec Léonide Mogui. Et je vous dis le nom de Léonide Mogui, puisqu'il est mort. Il ne me fera pas de procès. Et voilà, mon rôle a diminué. C'était quand même un gentil rôle, mais je n'avais pas toutes les phrases que j'aurais dû dire. C'est quand même scandaleux.
Oui, comment on le prend à cet âge-là
Alors, dans ce film, on est obligé de prendre... on prend comme on peut. Dans ce film, il y avait comme figurante Michèle Morgan. Je ne sais pas si elle me reconnaîtrait encore aujourd'hui, je ne sais pas. Et tout de suite après, elle a tourné avec Gabin, où elle avait de beaux yeux. Tu as de beaux yeux, ça c'est devenu légendaire. Très franchement, je ne sais pas comment Michèle Morgan est arrivée à avoir ce rôle. Je ne dis rien, je ne sais pas. Et elle le méritait. Michèle Morgan, c'est tout de même une grande bonne femme. Alors je ne dis rien sur sa vie privée, parce que je ne la connais pas. Mais elle était figurante. Elle était figurante dans Le Mioche, alors que moi, j'avais un rôle. J'étais Geneviève d'Ambreville.
Vous avez continué combien de temps en tant que comédienne ?
J'ai encore...
Il y a un moment où vous avez plus choisi la carrière de pianiste.
Moi, je n'ai rien choisi, j'ai pris ce qui se présentait. Mais j'ai encore joué pendant la guerre. J'étais à Limoges pendant la guerre. Et j'ai joué au théâtre municipal, au Cirque Théâtre Municipal de Limoges. On a fait 3 représentations d'une pièce qui s'appelait « La fiancée du diable ». C'est une légende limousine. Et j'en ai fait... La musique de scène, et j'ai joué le rôle de jeune première. L'orchestre était dirigé par quelqu'un, un très bon chef d'orchestre, qui s'appelait Pierre Montpellier, et c'était au Cirque Théâtre de Limoges, qui n'existe plus maintenant, mais il y a un autre théâtre à la place. Et c'était en 40 ou 41, je crois que c'était en 41. Après, je crois que je n'ai plus joué. Non, je crois que je n'ai plus fait de théâtre. Et je me suis mariée en 45, donc tout de suite après la guerre. Alors j'ai eu 3 enfants, j'ai évidemment eu un mari, puisque je me suis mariée, mais j'ai divorcé au bout de 15 ans. Et alors là, j'ai recommencé à vraiment donner des concerts. Pendant que j'étais mariée, ce n'était pas possible de faire. Bon, j'en ai fait quelques-uns, mais par exemple, je me souviens très bien d'un samedi matin... où je jouais lentement au métronome, parce que quand on doit jouer un mouvement vif, surtout un presto, eh bien, on le travaille très lentement et régulièrement, et on travaille au métronome. Et nous habitions le 5e étage, mais notre chambre était au 6e étage. Et mon mari descend comme une furie l'escalier intérieur que nous avions dans le salon. Il descend et il dit... Évidemment, c'est impossible de dormir dans cette maison, parce que je jouais au métronome. Alors, vous voyez comme l'ambiance est agréable pour travailler. Je ne pouvais pas travailler. Et mon mari était très fier de moi quand je paraissais en public, que j'étais bien habillée, bien coiffée, bien maquillée, et que je jouais pas trop mal. Il était très content. Mais quand on l'appelait Monsieur Carveno, il était moins content, parce que j'étais légalement Madame Paquin. J'avais épousé un monsieur Paquin.
La séparation avec votre mari, vous avez donc là vous avez eu le temps pour jouer du piano et
la séparation, vous voulez dire le divorce?
Oui.
Parce que c'était vraiment un divorce. C'est moi qui l'ai demandé, mais je n'ai pas demandé parce que mon mari me trompait. Il m'a trompé dès le premier jour. Il était terriblement coureur. Il était d'ailleurs très séduisant, mais nous n'étions pas du tout d'accord sur l'éducation des enfants. Et c'est pour ça. Il était profondément injuste avec les enfants. Il avait ses préférés, il avait ses préférences. Et je ne pouvais pas supporter ça. C'est pour ça que j'ai demandé le divorce. Et après mon divorce, je me suis sentie libre. Je me suis sentie légère. Et je pouvais faire ce que je voulais. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé parce que mes enfants étaient encore jeunes. Mais j'ai donné donc énormément de leçons parce que ma pension n'était pas suffisante. Mais j'ai aussi fait beaucoup, beaucoup de concerts. Je dormais 4 ou 5 heures par nuit. Mais j'étais très heureuse.
Est-ce qu'un de vos enfants a continué dans la vie artiste?
Mes 2 aînés, Orlan Paquin. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose. Elle a tourné dans un feuilleton qui s'appelait « Vive la vie ». Mais Orlane a maintenant 64 ans. Elle avait 17 ans à l'époque. Elle a donc été comédienne, mais elle joue très bien du piano. Elle a composé, elle a fait des chansons. Elle a eu 3 disques chez Barclay. Mais finalement, elle a préféré se marier que de continuer la carrière. Et Dorian, qui avait 11 mois de moins qu'Orlan, mon fils Dorian, très doué, extrêmement doué, pour tout d'ailleurs, pour tout ce qui est art. Il était aussi doué pour la sculpture, pour la peinture, pour la danse, pour la musique, il a joué du violon, et pour le théâtre. Il a écrit plusieurs pièces de théâtre qui ont été traduites dans plusieurs langues. Il a été directeur de théâtre pendant 2 ans à Bruxelles, et il était metteur en scène, directeur de théâtre, comédien, il était tout, mais ça fait 18 ans maintenant qu'il est mort. Et mon dernier fils, qui a 60 ans maintenant, est aussi très très musicien. D'ailleurs, je dois dire entre parenthèses que Orlan et Renaud, mon dernier fils, sont très très gentils avec moi. Ils ne font plus leur carrière d'artiste. Renaud jouait du violoncelle, mais je voulais faire un trio de mes enfants, le trio Paquin, et justement, mon mari n'a pas voulu. Et il a dit, je ne veux pas que mes enfants soient des ratés comme leur mère.
On aimerait bien être ratés comme vous. Jean-Paul.
Pour revenir à, disons, une période un petit peu difficile, puisque tu étais allemande, à l'époque de la dernière guerre mondiale,
oui.
As-tu rencontré quelques difficultés, puisque tu vivais en France à l'époque ?
Si j'ai rencontré des difficultés, ben j'allais dire mon chéri, alors que tu n'étais pas mon chéri, mais c'est simplement gentil parce qu'on se connaît depuis longtemps. J'ai eu des difficultés énormes. Je suis arrivée à Paris à l'âge de 18 ans, donc c'était en 33. La guerre a éclaté en 39. De 33 à 39, ça fait 6 ans. Et pendant ces 6 ans, j'ai demandé 3 fois la nationalité française, et j'ai été rebootée 3 fois, et tu ne devineras jamais ce qu'on m'a répondu. On m'a dit, vous êtes jeune et jolie, mariez-vous. Voilà la réponse. Ce qui fait que la déclaration de guerre, j'avais toujours mon passeport allemand. Alors que je n'étais pas allemande de cœur, d'ailleurs je n'en ai jamais été. Je suis née à Berlin. Comme je suis née en 1914, les premiers jours de la Première Guerre mondiale, je suis restée 4 ans à Berlin. Et puis, mon père a été appelé à Berne, comme je vous l'ai dit, et j'ai vécu ma jeunesse à Berne. Alors, de 1 an à 4 ans, on ne sait pas vraiment où l'on vit. Et je ne me sentais pas du tout allemande. Je parlais l'allemand. Je parlais l'allemand avec mon père, mais je parlais le français avec maman. Mais je ne me sentais pas allemande.
Mais en France, comment ça s'est passé ? Puisque là, il y a eu la déclaration de guerre, donc j'imagine que c'est
pas
toujours
facile. Mais j'ai travaillé au noir, j'avais pas la... C'est à la préfecture de police, s'il vous plaît, qu'on m'a conseillé de ne pas dire que j'étais allemande, parce que je n'avais pas de carte de travail. Mais il fallait absolument que je travaille. Et c'est le directeur du service des étrangers, je ne vais pas vous dire son nom, mais je m'en souviens très bien, au 5e étage, escalier E, de la préfecture de police. Cet escalier qui sentait la vieille urine, hein, ben c'était une honte. Je crois que maintenant c'est plus propre. Mais la préfecture de police, c'était vraiment pas beau. Eh bien, c'est ce monsieur qui m'a dit, mais Mademoiselle Valli, il m'appelait Mademoiselle Valli, ne dites donc pas que vous êtes allemande. Travaillez, personne ne vous demandera quoi que ce soit. Et c'est vrai. Personne ne m'a rien demandé, j'ai travaillé au noir. Mais quand j'ai fait de la figuration de cinéma, que je savais qu'il y avait un contrôle du ministère du Travail, je me réfugiais dans les WC. Et comme très souvent, quand on faisait de la figuration, c'était des bals en costume avec des robes à crinoline. Et vous savez, les WC dans les studios, c'est pas toujours très beau. Ce sont des WC à la turque. Eh bien, je me réfugiais dans un WC. Et j'attendais que les inspecteurs du ministère du Travail soient partis. Alors je sortais, mais j'avais peur qu'on m'ait demandé dans le champ pour tourner. Et vous savez que quand on fait de la figuration, on attend parfois des journées entières. Mais quand on est dans un plan qu'il faut tourner, alors là, il faut être sur place. Et vous n'avez pas le droit d'aller au WC. Et bien moi, j'y attendais. Et j'étais toujours de détresse. J'ai eu peur pendant des années, parce que je savais que c'était très mal de travailler au noir. Je n'avais pas le droit.
Quelles sont les raisons pour lesquelles, pendant la guerre, tu t'es réfugié à Limoges ?
Parce que tous les ressortissants allemands devaient être soit en Dordogne, soit en Haute-Vienne, tout simplement. J'avais gardé mon appartement à Paris, et pendant toute la durée de la guerre, j'ai payé mon loyer. Ce qui fait qu'en 1945, quand la guerre a été terminée, je suis rentrée à Paris et j'ai retrouvé mon appartement.
Donc c'est l'État français qui obligeait les ressortissants oui. allemands à s'installer dans l'un de ces deux départements.
Absolument, c'était Périgueux ou Limoges, ou enfin la Dordogne ou la Haute-Vienne. Mais à Limoges, j'ai pensé que je trouverais du travail et j'en ai eu du travail. Je donnais parfois 11 heures de leçons de piano par jour et j'étais le dimanche l'organiste à l'église réformée de Limoges. Moi, j'ai travaillé comme un nègre.
C'est impressionnant d'entendre votre vie. Maintenant que vous êtes bien assis sur votre...
Que je suis âgée.
Ou je dirais bien assis sur la profession, sur ce côté artiste, piano et autres, vous donnez toujours des concerts ?
Ah ben oui ! Je joue avant-hier, j'ai fait un récital. Et je joue le mois prochain en Allemagne, avec orchestre. Je joue un concerto de Bach et dans le même concert, on joue l'une de mes œuvres pour orchestre et chœur. Et ben, j'ai tout le temps des concerts. J'ai des choses en vue pour la saison prochaine. Ce ne sont pas des grands concerts. Ce n'est pas ni la salle Pleyel, ni les Champs-Élysées, ni le Palais de Chaillot. Vous savez que dans le public, que vous ayez une personne ou 10 ou 100, c'est exactement pareil. Il faut se produire aussi bien que possible. Personne n'est parfait, donc on n'atteint pas la perfection, mais il y a une perfection relative. Il faut toujours donner le meilleur de soi-même. Qu'il y ait une personne ou 10 personnes, c'est pareil.
Vous vous produisez, paraît-il, énormément en Allemagne.
Moi, je joue quand je peux, oui. Quand je suis engagée.
Qu'est-ce qu'ils disent, les Allemands ?
Qu'est-ce qu'ils disent ?
Oui, par rapport...
Mais ils ne disent rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent ? Parce que les critiques, ils ne se dérangent pas. Ils se dérangent pour les grandes vedettes. Mais les critiques ne viennent pas m'entendre. Et les amis, alors, ils me disent que je suis formidable, que je suis merveilleuse, que je suis magnifique. Alors, qu'est-ce que vous voulez encore ? On me dit toujours que c'est merveilleux, que je suis belle, que je... Oh ! Qu'est-ce qu'on me dit ? Il y aurait de quoi rougir. Mais je ne sais pas si les gens sont sincères. Parce qu'après un concert, vous savez, mais... Oh ! Des compliments, je dirais même des complimentations. À n'en plus finir. Ça fait plaisir, c'est vrai. Mais je n'en crois que la moitié. On ne vient pas me féliciter pour me dire t'as été moche.
Pourtant, quelle femme vous êtes ?
Quelle moche ?
Non. Parce que les auditeurs ne vous voient pas, mais c'est vrai que Vali est une très belle femme. Ah, elle n'entend plus.
Ah, bon, merci.
Compliment sincère.
Sincère, oui, franchement. D'autant qu'on est quand même dans le quartier Saint-Germain, un quartier où il y a énormément d'artistes.
Ah, oh ben il y en a partout.
Ici, c'est quand même, il y a une concentration importante d'artistes, aussi bien de comédiens que de musiciens. Et
donc, alors, vous voulez dire qu'à Montmartre, il n'y en a pas ? Mais j'habite Montmartre.
Eh bien oui, c'est la deuxième concentration. Bien, donc vous avez encore pas mal de projets.
Oh oui, qu'est-ce que je ferais sans projet ? Ah, il faut qu'ils se réalisent aussi, bien sûr. Et ce n'est pas toujours facile d'aller vraiment au bout de ce qu'on a décidé de faire. Mais il faut arriver au bout.
J'imagine que vous travaillez tous les jours le piano ?
Bien sûr. Tous les matins à 9h, je joue do, la, sol, la, fa, sol, mi, fa, ré, si, la, si, sol, la, fa, sol, mi. Tous les jours. D'ailleurs, vous voyez, j'ai de l'arthrose. Hein. Là, j'ai un doigt qui va complètement de travers. Et celui-là, le quatrième de la main gauche, il me fait mal. Mais je joue, j'insiste. Et peut-être au bout d'un quart d'heure, je n'ai plus mal. Alors, ça vaut la peine, hein.
Bien, cette émission se termine.
Je vous remercie beaucoup de m'avoir écoutée. J'ai beaucoup parlé. Hein.
Mais c'était fait pour ça.
Il ne faut pas me pousser dans mes derniers retranchements. Hein.
Merci Vali Carveno d'être venue, d'avoir parlé de votre vie passionnante, de nous avoir expliqué aussi les tourments et les difficultés d'une jeune artiste pour arriver au devant de la scène. C'est pas toujours évident. Et puis merci à Jean-Paul Victor d'avoir joué un peu le Candide et puis surtout, parce qu'il connaît quand même bien Vali, de nous avoir permis de construire cette interview.
Merci Marion.
Merci Vali.
Merci à vous.
À très bientôt, j'espère. Autre radio, autre culture. Au revoir. Autre radio, autre culture.